Bonjour, vous écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Il y a 4 ans, la Belgique découvrait le principe du confinement. C'était le début de la crise sanitaire, crise causée par une maladie dont on ne savait pas grand-chose. On va voir si aujourd'hui on en sait plus. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
C'était il y a 4 ans, le premier jour d'une période très particulière, le premier jour du confinement, annoncé la veille par la première ministre d'alors Sophie Wilmès. On ne le savait pas encore, ce confinement strict allait durer 5 semaines. Le personnel soignant était applaudi à 20h, les familles et les amis se retrouvaient dans des appels vidéo. On ne savait pas toujours s'il fallait dire SARS-CoV-2, Covid ou coronavirus. On ne savait d'ailleurs pas grand-chose de cette maladie. 4 ans plus tard, l'état des connaissances a évidemment évolué. Que sait-on aujourd'hui qu'on ne savait pas alors? On va voir ça avec Anne-Sophie Lurquin du pôle Société. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Pierre.
Est-ce que vous vous souvenez parfaitement de cette journée si particulière? Est-ce que vous avez un souvenir du 18 mars 2020?
Alors il se passe un truc très bizarre dans ma mémoire, c'est que je me rappelle en général du jour plus que des dates. Donc je me souviens que c'était un mercredi et j'étais en voiture et j'ai vu par la fenêtre une vieille dame qui parlait à quelqu'un qui devait être vraisemblablement son fils ou son petit-fils par la fenêtre. Et là j'ai compris qu'on allait vers des moments très très difficiles et j'ai eu les larmes aux yeux.
Il y a eu énormément d'inconnus pendant toute cette période. C'est d'ailleurs, j'ai l'impression, une des choses que les spécialistes répétaient le plus souvent, c'était c'est un nouveau virus, on ne sait pas grand-chose. Aujourd'hui, on en sait quand même un petit peu plus. C'est une des premières questions qui s'était posée portait sur la transmission. On ne savait pas très bien si le virus se propageait par contact, par voie aérienne, par éternuement. Aujourd'hui, on sait avec précision le vecteur de transmission du Covid.
Oui, alors donc c'est un virus respiratoire, donc il faut le respirer. C'est sûr qu'au début, comme pour d'autres maladies infectieuses, on suspectait les grosses gouttelettes émises lorsque quelqu'un parle ou a fortiori quand il tousse ou qu'il éternue. Mais on soupçonnait moins les aérosols qui restent en suspension dans l'air. C'est donc un mode de transmission qui a été un peu négligé au début, même si une première étude au mois de mars faisait état de cette transmission par aérosol. C'est aussi la raison pour laquelle on a imposé le port du masque pour limiter cette transmission par aérosol. Quant aux surfaces, on l'a beaucoup soupçonné au début. Je l'explique dans l'article. Souvenez-vous qu'on désinfectait aussi les caddies à l'entrée des supermarchés.
Et qu'on nettoyait ses courses tout court.
Alors qu'on ne portait pas le masque. Donc ça, c'était absurde. Et j'ai interviewé un infectiologue du CHU Saint-Pierre, Nicolas Dauby, qui me dit que ce mode de transmission, il est vraiment anecdotique, voire nul. Il faut, si vous voulez, que ce soit une personne infectieuse qui laisse une goutte infectieuse sur cette surface et qu'après, une personne le touche et qu'elle, puisque c'est un virus respiratoire, comme je l'ai dit, qu'elle l'intègre dans son organisme. Donc ça fait beaucoup de si. Il n'empêche, je le souligne dans mon papier, qu'il reste toujours utile de bien se laver les mains. Et ça, c'est peut-être une des leçons qu'on a apprises de la pandémie, parce que ça nous permet de nous protéger de toute une série d'autres virus, comme celui de la grippe, mais aussi tous les rotavirus, qui sont ces virus gastriques qui sont très très désagréables.
C'est évidemment lié à la transmission, vous en avez parlé, mais on s'est longtemps posé la question de l'utilité du masque. Alors si je conclue de ce que vous venez de dire sur les aérosols, il était très utile dès le début.
Oui, il était très utile. Alors, on dit souvent que ce virus est arrivé dans une population naïve. D'un point de vue de la médecine, dire qu'une population est naïve, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les outils, soit par l'immunité naturelle, soit par les vaccins, pour faire face à un virus. Mais on était aussi naïf au sens commun du terme. C'est-à-dire que j'avais voyagé quelque temps auparavant au Japon et j'avais vu que beaucoup de personnes portaient le masque dans les transports en commun. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est plus quelque chose qui détonne dans le paysage. Et après, il y a eu des débats complètement stériles autour de ce masque, mais c'est vrai qu'on n'en avait pas assez, parce qu'on avait détruit un stock stratégique. Il y avait aussi le type de masque. Et puis, comme m'a dit Marius Gilbert, Tout dépendait aussi de la façon dont on le mettait. Rappelez-vous, il y avait des gens qui le portaient de façon assez farfelue.
Qui gardaient le même masque pendant 2 semaines.
Voilà, donc il fallait qu'il couvre et le nez et la bouche. Mais c'est peut-être aussi une des leçons, 4 ans plus tard, qu'on peut avoir intégrées. C'est que quand on est malade et qu'on doit impérativement sortir pour une raison X ou Y, on porte un masque et on est plus surpris quand on voit des gens comme ça dans les transports en commun.
Si on se retrouve aujourd'hui, je l'ai dit en intro, c'est parce qu'on est exactement 4 ans après le début du premier confinement. On peut dire aujourd'hui si justement ce confinement, le fait de maintenir tout le monde à la maison, ça a été efficace?
Alors là, donc, j'ai posé la question à Marius Gilbert et il dit c'est difficile à dire parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on calcule exactement. Est-ce que c'est le nombre de transmissions ou le nombre de décès? Et puis par ailleurs, si c'est le nombre de transmissions, bah alors il faut voir quelle était l'efficacité du testing, parce que le nombre de cas dépendait aussi du nombre de testing. Souvenez-vous, au début, on n'avait pas les instruments pour tester comme ceux qui sont arrivés plus tard. Puis ça dépendait d'un pays à l'autre. Donc c'est compliqué de mesurer exactement l'efficacité des confinements. Par ailleurs aussi, c'était une mesure qui n'était pas souvent pas prise isolément. Il y avait en plus la fermeture des commerces, l'interdiction des grands rassemblements, etc. Donc, une chose est sûre, c'est qu'il fallait limiter la propagation du virus et qu'il fallait surtout faire en sorte que les hôpitaux ne soient pas à ce point débordés, parce que des hôpitaux débordés, ça voulait dire un personnel de soins sur les genoux. Moi, je les ai beaucoup vus, mais aussi certaines maladies et la prise en charge d'accidents qu'on ne pouvait plus faire à l'hôpital, notamment aux urgences. Donc, il fallait absolument freiner la transmission du virus par ce qu'on a appelé des mesures non pharmacologiques en l'absence de vaccins. Et en fait, ce que les spécialistes que j'ai interrogés m'ont évidemment rappelé, c'est que la donne a vraiment changé à partir du moment où la campagne de vaccination a débuté en janvier 2021. Et aussi, un autre game changer, ça a été l'arrivée de la vague Omicron. Alors ça, c'était fin décembre 2021, janvier 2022. Et en fait, Omicron, il y a un biostatisticien de l'université d'Anvers, Neil Hens, qui a calculé qu'il a affecté 70% de la population belge. Donc là, en fait, on a ça, les immunologues le disent beaucoup, plus on est confronté à un virus, plus on diversifie son arsenal immunitaire. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, des mesures extrêmes n'ont plus été nécessaires.
Assez rapidement, on s'est aussi rendu compte que les personnes âgées étaient les plus à risque de développer des complications. On peut établir aujourd'hui, 4 ans plus tard, qui étaient effectivement les plus fragiles face au virus, les personnes âgées, mais aussi une autre catégorie de population?
Oui, donc l'âge est un facteur de risque puisque ce sont les réponses interférones, c'est-à-dire la première ligne de réponse face à une attaque virale. Donc leurs réponses sont moins bonnes avec l'âge, mais il y a aussi les comorbidités qui sont parfois associées à l'âge, mais parfois pas. Et puis les personnes immunodéprimées, celles qui ont un cancer par exemple. Et donc ça, c'est une première catégorie de population à risque, mais ça les donnait en profondeur de Chine le montrait déjà. Les personnes en surpoids et obèses sont aussi un autre groupe à risque. Et puis les femmes enceintes aussi, parce qu'il y a un plus haut niveau d'inflammation, en fait.
Aujourd'hui, 4 ans après le premier confinement, est-ce qu'on peut dire qu'on en a fini avec le Covid?
Alors, oui, on a développé des anticorps et des défenses face à ce coronavirus aujourd'hui. Maintenant, il n'est pas exclu qu'il y ait un nouvel agent pathogène et une nouvelle pandémie liée à un autre virus et à d'autres zoonoses, puisque ça, c'est quand même aussi une des hypothèses qui est retenue. J'explique ça aussi dans l'article. C'est donc le saut d'espèces. Et le réchauffement climatique favorise les sauts d'espèces. C'est tout un écosystème. À partir du moment où on fait de la déforestation, on favorise aussi le saut d'espèces. Et donc, il y a des risques de nouveaux agents pathogènes. Et on espère évidemment que si c'est un virus respiratoire, on pensera à prendre le masque, qu'on fera des mesures peut-être ciblées et qu'on aura appris de nos erreurs.
Merci beaucoup, Anne-Sophie.
Avec plaisir.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.